Bonjour, bienvenue sur Genrage, votre émission féministe lilloise. Aujourd'hui et la prochaine émission, nous allons vous parler de lutte anticarcérale et de féminisme. Nous faisons ça sur deux émissions parce qu'il y a tant de choses à dire et en une seule, on n'a pas le temps de parler de...
Enfin, de tout.
Voilà. Enfin, on va pas parler de tout, hein. On n'est pas non plus des spécialistes ni on n'a pas un savoir extensif et exhaustif sur la question, bien évidemment. Bref, et au programme de l'émission d'aujourd'hui, qui est la 34e émission, nous allons poser les bases de ce qu'est le système carcéral, pénal, faire une petite généalogie de pourquoi la prison, comment les féministes s'y sont intéressées, etc. La prison, c'est qui? Et après, on vous parlera du traitement différentiel. De prise en charge, on va dire, du pénal par les hommes et les femmes, c'est-à-dire que du début de la prise en charge jusqu'aux impacts que peut avoir l'incarcération potentielle ou même la simple prise en charge par le pénal d'une femme et d'un homme est différente. Elle était trop longue cette phrase, je sais pas si elle est bien faite.
Si, c'est bon.
Sans transition. Et on vous lira un petit extrait, un témoignage. Le témoignage de Griselidis Réal, que vous avez peut-être lu, qui est une peintre et prostituée, enfin qui était, elle est morte en 2000, enfin dans les années 2000 il me semble, bref, et qui a écrit un journal de prison pendant qu'elle était incarcérée, qui s'appelle « Suis-je encore vivante ?». Sans transition, Annaëlle nous donne quelques petites définitions.
Ouais, avant de commencer, donc je reviens sur quelques définitions liées au carcéral pour le coup. Et pas au pénal, on verra la différence tout à l'heure. Donc la définition d'un prévenu, donc un prévenu ou une prévenue, c'est une personne poursuivie devant un tribunal correctionnel ou de police pour une infraction qui n'est pas encore jugée. Un détenu, c'est une personne incarcérée. Une maison d'arrêt reçoit des personnes mises en examen, prévenues et accusées, soumises à la détention provisoire et condamnées à une peine de moins d'un an. Le centre de détention, c'est un établissement pénitentiaire orienté vers la resocialisation, dans lequel sont affectés certains détenus de longue peine et étant considérés comme étant moins dangereux que d'autres. La maison centrale, c'est un établissement pénitentiaire dans lequel les condamnés à un emprisonnement de longue durée purgent leur peine. Le quartier disciplinaire, ou mitard, c'est un placement punitif, donc le ou la détenue est seule dans sa cellule.
C'est une prison dans la prison.
Ouais, c'est ça. Et sa cellule ne contient que le strict minimum et les meubles sont collés au sol. Une grille est placée derrière la porte de la cellule pour être sûr que le prisonnier soit séparé des personnes qui doivent être en rapport avec lui. Donc le détenu placé en quartier disciplinaire a droit à une promenade une fois par jour, au parloir et au téléphone une fois par semaine, et à la visite du médecin deux fois par semaine. Mais bon, entre parenthèses, c'est pas toujours respecté. Et le quartier d'isolement, c'est pas censé être une mesure punitive, c'est une mesure qui est plutôt préventive et protectrice. Mais bon, dans les faits, c'est pas toujours respecté non plus. Voilà.
Voilà, tout de suite, on vous passe un extrait d'une discussion que nous avons enregistrée, une discussion qui a été organisée dans le cadre du Festoche et Bim Festival Féministe qui a eu lieu en octobre, je ne sais plus les dates exactement.
Ouais, il y a deux semaines, une semaine et demie,
voilà,
deux semaines.
Voilà, c'est ça. Et du coup, une discussion avait été organisée sur la question lutte anticarcérale et féminisme au CCL, le Centre Culturel Libertaire de Lille. Et cette discussion avait été introduite par Gwenola Ricordo, professeure de sociologie
à Lille 1.
À Lille 1, militante anticarcérale et féministe. Tout de suite, on l'écoute.
Première chose que je voudrais définir, c'est le terme de déviance qui peut revenir assez souvent. Le terme de déviance, il renvoie à l'existence de normes. Et en fait, on est des êtres sociaux et donc les normes, en fait, on est sans arrêt confronté à des normes, et qui dit le non-respect d'une norme, c'est ça qu'on va appeler déviance. Et donc ça, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est pas uniquement de la prison, c'est en fait de toute, alors dans le langage, dans le jargon abolitionniste, on va parler de situations problématiques, donc des situations dans lesquelles des personnes ne se conforment pas à une norme. Et donc c'est pas du tout la même chose que quand on parle de délinquance. En gros, la délinquance, la criminalité, c'est ce qui est défini par le droit. Mais évidemment que le droit, ça rend pas compte de toutes les situations problématiques auxquelles on peut être confronté. Donc c'est vraiment deux choses voilà, qui peuvent évidemment parfois se recouper. Hein, si c'est un viol, je pense qu'on est ici d'accord pour dire qu'il s'agit d'une situation problématique, c'est défini par le droit, mais il y a plein de fois où ce n'est pas exactement la même chose. L'autre chose que je voulais poser en préalable, c'est ce qu'on appelle le pénal. En fait, la sphère du pénal, c'est tout ce que l'État va prendre en charge comme forme de déviance. Et c'est ça qu'on appelle la justice pénale. Et ce n'est pas forcément réglé par la prison. Ça peut être des mesures de contrôle judiciaire, ça peut être un rappel au droit, ça peut être le placement sous bracelet électronique, etc., etc. Et donc, cette distinction entre le pénal et la prison fait que, en fait, par abolitionnisme, il y a des fois une petite confusion. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se définir comme militants anticarcéraux et donc qui veulent l'abolition de la prison. Et puis, en gros, les gens qui se définissent comme abolitionnistes, eux, ce qu'ils visent, c'est plutôt le pénal. Et en fait, ils visent plutôt le fait que l'État gère des situations problématiques et qu'il les gère à notre place. Parce que lorsque vous êtes victime d'un acte qui est considéré comme un crime ou un délit par l'État, c'est lui qui se charge des poursuites. Hein, en gros, vous n'êtes pas obligé, vous, de considérer que c'est grave. Hein, vous pouvez ne pas déposer plainte, mais la personne qui est l'auteur va quand même être poursuivie. Et c'est ça qu'on appelle le pénal. Donc, voilà, c'est important cette distinction entre militants, enfin, voilà, la lutte anticarcérale et la lutte abolitionniste. Dans le contexte français, en gros, on entend surtout parler de lutte anticarcérale. La question plus large, en fait, du pénal est très rarement abordée. Bon, c'est, à mon sens, une lacune, mais je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Comme on a dit que le pénal, en gros, c'est l'État qui gère les situations qu'il considère, lui, comme problématiques. Évidemment, tout ça, la sphère du pénal, la façon dont ça marche, évidemment, c'est pas quelque chose d'immuable. Ça a changé dans l'histoire. Par exemple, qu'est-ce qu'on a défini comme étant problématique? Il y a des choses qui auparavant n'étaient pas considérées comme problématiques, qui le sont devenues, et inversement. Et, salut. Et de la même façon, la prison, ça n'a pas été une évidence. Il y a évidemment plein de sociétés qui n'utilisaient pas la prison pour gérer les situations problématiques. En gros, on peut dire que la prison, bon là c'est Michel Foucault, elle a deux siècles. Elle a deux siècles, elle est née en Occident. Ça veut dire que la prison, elle s'est imposée de par le monde, en gros à travers la colonisation. Donc elle s'est imposée à des sociétés qui géraient très bien leur situation problématique sans du tout avoir recours à l'enfermement, pour dire les choses rapidement. Donc le pénal et la prison, c'est juste une façon de gérer des situations problématiques. Dans notre vie de tous les jours, on est confronté à plein de situations problématiques sans avoir affaire au pénal. Hein, si votre voisin il fait du bruit, sans doute que votre première réaction, c'est d'aller essayer de parler avec lui, etc. Bon, vous êtes en train de gérer une situation problématique sans faire appel au pénal. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que souvent, le premier argument qui est opposé aux abolitionnistes, c'est de dire qu'est-ce que vous allez faire? Et du coup, on a souvent ce préjugé que d'être abolitionniste, en gros, c'est la loi de la jungle, vous êtes devant la porte de chez vous avec une arme et puis, l'autodéfense. L'abolitionnisme, c'est pas du tout ça, c'est de dire, voilà, c'est une façon qui est datée et qui a une géographie qui est liée à l'Occident, à l'histoire du capitalisme. Et du coup, on peut très bien imaginer d'autres façons de gérer les situations problématiques. Alors, pourquoi on a inventé la prison? Alors, là aussi, c'est juste pour le petit speech, c'est juste pour poser quelques trucs. Donc, c'est normal, je vais vite, on pourra rediscuter de plein de choses. Et en plus, j'ai évidemment pas la science infuse. Mais pour dire rapidement l'invention de la prison, donc ça naît en gros avec la révolution industrielle. Et les premiers clients de la prison, on peut dire, c'est le prolétariat urbain qu'on met au travail. C'est une sorte de mise au travail, et plutôt des hommes, en fait. Donc, il y a cet aspect-là. Et les façons de justifier la prison sont en gros de quatre types. En gros, il y a quatre façons de justifier l'existence de la prison. Première justification, c'est de protéger. Donc voilà, on enferme quelqu'un pendant ce temps-là, il ne fait pas de mal. Évidemment, quand on pense à ça, c'est toujours assez problématique, parce que la seule façon de vraiment radicalement éviter que quelqu'un repasse à l'acte, et repasse à l'acte y compris en prison, contre des détenus, contre des personnels, etc., ce serait la peine de mort. Il n'y a que la peine de mort qui est définitive. Autre justification, la rééducation, donc de changer les personnes. Alors là aussi, il y a plein de contre-arguments qui peuvent être posés à cette justification de la prison. Parce que, évidemment, si on place quelqu'un dans un milieu qui est un milieu profondément anormal, puisque c'est un lieu d'enfermement, donc d'infantilisation, où donc les personnes n'ont aucune autonomie, c'est très mal préparer la personne à l'avenir, sans compter que ils ne sont pas forcément placés dans une situation de se remettre en cause sur ce qu'ils ont fait. Bon, c'est la grande idée de la prison comme école du crime. Autre justification, de réparer. Donc, finalement, de rétribuer la victime. Donc, c'est ce qu'on appelle la logique rétributive de la prison, ou parfois de la peine de mort. Et là aussi, c'est très problématique, parce que les personnes qui ont subi un tort ne se sentent pas forcément réparées par le fait qu'une personne soit en prison ou que cette personne souffre. La réparation, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, qui passe par le fait que la personne reconnaisse des torts, pas forcément une satisfaction de savoir que de l'autre côté, il y a de la souffrance. Et la dernière fonction de la prison, c'est celle de la prévention, c'est-à-dire l'idée que les gens, avant de passer à l'acte, ils se diraient « Oh là là, si je fais ça, je risque d'aller en prison ». Or, là aussi, c'est problématique à plusieurs niveaux. À un niveau éthique, de dire on va affliger une peine, une souffrance à une personne pour éviter que d'autres fassent quelque chose. Vous voyez, il y a un problème éthique, c'est que normalement il devrait y avoir, si on est dans une logique rétributive, il faudrait que ce soit la personne qui a fait du mal qui subisse quelque chose, mais pas on fait subir du mal en gros à quelqu'un pour en ricocher que quelqu'un ne fasse pas du mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ça pose ce problème-là. Et puis, très concrètement, le problème, c'est qu'il y a des actes pour lesquels les gens réfléchissent aux conséquences, où ils se disent, bon, ça vaut peut-être quand même le coup, parce que vraiment, cette personne, je la déteste, et je suis prêt à faire 20 ans de prison pour ça. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'actes pour lesquels les gens n'ont évidemment pas ce type de réflexion, voire sont totalement ignorants de ce qu'ils encourent. Ça peut parfois surprendre, mais dans une des enquêtes que j'ai fait, où j'interrogeais des délinquants sexuels, typiquement les pères incestueux qu'ils ne risquent rien, que c'est pas interdit en fait. Et ils sont surpris en fait voilà, d'être confrontés à cette règle-là. Donc voilà comment on peut un peu justifier la prison.
Vous êtes de retour sur RCV 99FM, vous êtes toujours avec Jean Rage, et donc on vient d'entendre un extrait de Gwenola, pardon, Ricordo, donc qui a été enregistré par nous-mêmes, qui intervenait dans le cadre d'une discussion dans le festival EBIM, donc au CCL, sur les luttes anticarcérales et le féminisme. Là, rapidement, on va vous parler de la prison, c'est qui ? Alors, c'est pas très bien formulé, mais voilà, en gros, c'est...
Comment ça, c'est pas bien formulé ? C'est qui la prison ?
C'est qui la prison, c'est mieux, mais ma phrase était mal faite. Et donc, je vais revenir pour l'instant sur quelques chiffres que je tire d'un article du Monde Diplomatique qui est paru en septembre 2003, donc il date un peu, qui a été écrit par Marina da Silva, et qui est retranscrit sur le site prison.free.fr, si vous voulez le retrouver. Donc au départ, l'institution pénitentiaire est faite par des hommes et pour des hommes, et aujourd'hui encore, il y a énormément d'hommes dans les prisons, ils sont très majoritaires. En 2003, on comptait 60 963 hommes contre 2 275 femmes. Alors entre parenthèses, les prisons en général comptent 48 000 places. Et cependant, alors le chiffre de femmes a doublé depuis les années 80.
Alors, en pourcentage, t'as des pourcentages peut-être pour que
ça fait 3,5%.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a 97% d'hommes et 3% de femmes, grosso modo.
Dans les prisons. Et
France.
En France, ouais, c'est ça. En Espagne, en Italie, j'ai les chiffres aussi, il y a 9, respectivement 9 et 10% de femmes, d'ailleurs. Bref. Et mais du coup, les structures carcérales ont été pensées par et pour des hommes. Et donc les établissements pénitentiaires pourvus de quartiers pour femmes sont peu nombreux par rapport au nombre d'établissements pénitentiaires total en France. Donc il y a 63 établissements pénitentiaires qui ont prévu un accueil de femmes pour 186 établissements pénitentiaires au total. Et en plus de ça, il y a 4 maisons d'arrêt et 3 centres de détention qui sont situés dans le nord de la France, ce qui pose un problème de maintien des liens sociaux des femmes avec leur famille, parce qu'elles ne sont pas toujours mutées ou incarcérées proches de leur famille. Les autres établissements pénitentiaires, en dehors de ces 7-là, donc des 4 MA et 3 centres de détention, ne comptent pas de quartier propre aux femmes, mais plutôt des annexes qui ont été créées au sein des centres pour hommes. Et comme la non-mixité est très très est stricte en prison, les femmes bénéficient très peu de leurs droits à un travail, à des temps de formation, et parfois elles voient leur temps de promenade qui n'est pas respecté. Et comme elles sont numériquement minoritaires, elles passent après les hommes. Et ouais, voilà. En gros, c'est les chiffres que j'ai sur ce qu'est la prison et qui est la prison.
Alors, la prison, c'est qui ? Comme le disait Anne-Hel, c'est majoritairement des hommes. Pardon, c'est absolument pas drôle comme question en plus, enfin comme thématique. Non. C'est une institution faite par et pour des hommes, et ça c'est l'analyse de certaines féministes, alors entre autres Colline Cardy, dont je vais vous parler tout de suite, qui a écrit un article qui s'intitule « Le contrôle social réservé aux femmes, entre prison, justice et travail social ». Alors un article que vous pouvez retrouver sur internet, on vous mettra sur la page, ou sinon vous pouvez le retrouver dans « Déviance et société », 2007, volume 31, numéro 1, page de 3 à 23. Bref, et du coup, ce que dit Colline Cardy, c'est qu'en France, la question des femmes en prison, ou cette analyse sous le prisme du genre de tout ce qui se passe en prison, c'est quelque chose qui est assez délaissé par rapport aux pays anglo-saxons, pardon, j'arrive pas du tout à parler aujourd'hui. Et du coup, elle raconte un truc, pas en préambule, mais au tout début de son article, elle décrit quelque chose qui m'a paru intéressant. Je vous lis ça tout de suite. Si certains notent que la variable sociologique la plus discriminante en matière de prison est assurément le sexe, cette assertion n'en demeure pas moins lettre morte. Le présupposé universaliste du droit pénal a été remis en question par des analyses en termes de classe sociale et de race, mais il apparaît en France particulièrement rebelle à toute analyse sexuée. Un peu plus loin, en interrogeant essentiellement l'expérience masculine, les études sur la réaction sociale se sont le plus souvent centrées sur les sphères carcérales et pénales. Et inversement, en considérant exclusivement ces espaces, les chercheurs ont contribué à écarter la question des femmes. L'occultation de la dimension sexuée du système de répression pénale fait ainsi apparaître une sociologie de la déviance pénalo-centrée et une acceptation restrictive du concept de contrôle social. Donc en gros, ce qu'elle dit, c'est que il y a des études sur les populations en prison de manière générale qui ont été faites, qui ont révélé que, comme le dit d'ailleurs Gwenola Ricordo dans l'extrait qu'on vous a passé, en gros, la prison, historiquement, ça a été fait pour les prolétaires, etc. Et ça s'est développé dans une mouvance colonialiste aussi. En gros, aujourd'hui, dans les prisons, c'est beaucoup de personnes d'origine étrangère, c'est des sans-papiers, c'est des pauvres, c'est voilà. En gros, c'est ça. C'est pas des riches en prison. Elle a pas été construite de cette manière-là, quoi. C'est aussi, elle est baignée dans une idéologie la prison. Et du coup, il y a des analyses qui ont été faites à ce sujet-là, mais sur les femmes, sur la différence de traitement, le traitement différentiel qui est fait pour les hommes et pour les femmes, il n'y a pas des masses d'études qui ont été faites. Et ce qu'ont mis aussi en lumière certaines analyses féministes, c'est que finalement, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que le système pénal, comme le montre l'histoire, il s'est, au cours des siècles, spécialisé dans le traitement de la déviance masculine, tandis que la déviance féminine, elle a été peu à peu prise en charge par d'autres instances, qui sont par exemple morales ou par la santé. Et du coup, là, il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a une figure de déviance. Il y a des figures de la déviance féminine, mais elles sont moindres par rapport à celles des hommes. Alors, par exemple, elle dit que. Cardi, Colleen Cardi, voilà, raconte comment la population carcérale aujourd'hui ne fait plus que. Équivaut à peu près à 3%, mais qu'avant, en 1850, elle équivalait à 20% et à 15% à la fin du XVIIIe siècle. Et en gros, c'est dû, et du coup, c'est petit à petit que ce pourcentage a baissé, à la fois parce que il y a des crimes et des délits qui ont disparu, qui sont plus pris en charge par le pénal aujourd'hui. Il y a eu par exemple au XXe siècle la dépénalisation de l'avortement, mais il y a eu aussi d'autres délits comme par exemple les émeutes de subsistance. Donc ça, c'est quand il y avait des grosses famines, par exemple, il y avait des émeutes pas possibles, ça partait dans tous les sens. Les femmes en faisaient pas mal partie. Et voilà, donc c'est ce genre de choses qui a fait que la prison, petit à petit, est devenue que la population en prison s'est masculinisée, on va dire. Bref, tout de suite, on vous passe une petite chanson. Ensuite, on vous repasse un extrait et on vous parlera de ce traitement différentialisé pour femmes et pour hommes plus en détail. À tout de suite. La chanson, donc c'est La Roue Bulletproof de l'album éponyme. L'album s'appelle La Roue, pardon, aujourd'hui. Je suis à la masse. Et du coup, cette chanson est tirée de ce premier album. C'est un duo britannique sorti, l'album est sorti en 2009. Malheureusement, le groupe a splitté apparemment il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense que la chanteuse Ellie Jackson, elle s'appelle, continue le groupe toute seule. Ce n'est plus un duo, du coup. À tout de suite. I'm Et vous êtes de retour sur RCV avec Jean Rage, votre émission féministe lilloise. Nous parlons de lutte anticarcérale et féminisme. Aujourd'hui, on parle plus de comment le féminisme a investi la question carcérale. Dans la prochaine émission, on parlera un peu plus de lutte anticarcérale. Tout de suite, on vous relance un extrait sur ce traitement différentiel entre hommes et femmes. C'est toujours un extrait de la discussion qui a été enregistrée dans le cadre du festival EBIM, Festival Féministe. Et du coup, c'est toujours Gwenola Ricordo. À tout de suite.
D'abord, parce que les féministes sont allées voir du côté des femmes en prison. Tout à l'heure, j'ai dit, bah, voilà, c'est une institution, pour résumer, on peut dire, c'est une institution qui a été faite par des hommes pour des hommes. Toujours est-il qu'il y a quand même des femmes qui sont en prison. Alors ça, c'est une constante dans les pays occidentaux, c'est moins de 5%. Et en France, aujourd'hui, c'est plutôt moins de 3%. Donc il y a des femmes en prison. Est-ce que les féministes, les recherches féministes ont permis de montrer, c'est que les femmes bénéficient d'une forme... ce qu'elles appellent de paternalisme pénal, c'est-à-dire que, en gros, pour un acte égal commis par un homme et par une femme, les femmes s'en tirent mieux. Donc, c'est un petit bénéfice qu'on a dans ce domaine-là, sauf pour les crimes qui sont considérés comme heurtant particulièrement les rôles sexués attendus des femmes. En gros, tuer un amant ou tuer un mari, tuer un enfant, une femme va être plus gravement punie qu'un homme qui commet le même type de fait. Et donc ça, c'est première remarque intéressante. Après, lorsque les femmes sont en prison, la même peine ne se passe pas de la même façon pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire que les conséquences sociales pour les femmes sont beaucoup plus dures que pour les hommes. Les femmes sont davantage stigmatisées par le passage en prison. Typiquement pour les hétérosexuels, un homme qui est en prison a beaucoup plus de chances de garder sa partenaire ou de trouver une nouvelle partenaire. Or que pour les femmes hétérosexuelles, c'est extrêmement dur de trouver un nouveau partenaire. Et puis, surtout, joue en faveur des hommes les solidarités féminines. C'est-à-dire que, en gros, un homme qui se retrouve en prison, il peut compter, s'il a toujours un cercle familial, sur la solidarité d'une mère, de sœur, voire de nièce, de fille, etc. Alors que du côté des femmes, cette solidarité féminine, elle va un petit peu jouer, mais elle va jouer beaucoup moins que pour les hommes. Et puis, la solidarité masculine, alors là... faut vraiment s'accrocher pour réussir à l'avoir. C'est-à-dire qu'on voit très très peu de pères, de partenaires masculins, de femmes qui soutiennent des femmes qui sont en prison. Et donc, à peine égales, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Or, en prison, souvent on dit un an de prison pour une femme, c'est comme 3 ans de prison pour un homme. Et donc, ça dit vraiment le poids différentiel qu'il va y avoir entre la prison pour les hommes et pour les femmes. Or donc, la question de qu'est-ce qui se passe pour les femmes en prison, ce qui fait que, par exemple, les féministes canadiennes ont lutté et ont obtenu en partie que soit reconnu que, du coup, ce côté que la prison est plus dure et a plus de conséquences pour les femmes, et donc cette idée qu'il faut éviter au maximum la prison pour les femmes, mais donc sur des bases féministes, en fait. Ça leur est apparu comme quelque chose qui faisait partie des luttes féministes. Autre chose, autre apport, à mon sens, des féministes, lorsqu'on réfléchit au pénal, c'est de dire que la prison et le pénal, ça protège pas les femmes, et on peut ajouter évidemment les personnes LGBT, de toutes les violences spécifiques à leur égard. Alors évidemment, c'est la question de l'impunité, des peines différentielles, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'un côté le crime passionnel de l'homme qui est beaucoup plus excusable. Et donc, Ça permet de poser la question, finalement, le pénal, il protège qui qui est victime de ce système pénal. Et si on poursuit ce raisonnement, puisque j'ai déjà dit, il y a des solidarités féminines qui se mettent beaucoup plus en route pour les femmes que pour les hommes, on peut en arriver à un concept qui, à mon avis, est intéressant. Il s'agit de parler de coûts sociaux de la prison et pas de juste se dire quand il y a une personne qui est en prison, il y a une personne qui est en prison, mais au contraire de se dire qui ça affecte quand quelqu'un est en prison et quand généralement il y a un homme qui est en prison. Et si on réfléchit comme ça, on va se rendre compte que la prison, elle s'adresse pas du tout qu'aux hommes. Qu'au-delà de cette idée, il y a 97% d'hommes et finalement, ils subissent une discrimination genrée en leur défaveur et ce serait bien un des uniques endroits où il y aurait une discrimination en faveur des hommes. Si on regarde les coûts sociaux, ce qu'on voit, c'est que les femmes sont, dans l'entourage de ces hommes, sont énormément affectées par la prison. Elles le sont parce que souvent les différences économiques font que quand un homme va en prison, elle se retrouve à devoir travailler ou à gagner plus. Elle se retrouve à soutenir l'homme qui est en prison, donc en envoyant des mandats, mais aussi en payant les avocats, en payant les transports qui permettent d'aller au parloir. Et du coup, leur vie devient organisée par la prison. Par le rythme des parloirs, de l'envoi de l'argent, de s'occuper du linge, etc. Et donc, ça permet, si on réfléchit comme ça, de plus du tout voir la prison comme finalement un lieu qui intéresse juste à la marge les féministes.
Vous êtes de retour sur sur RCV, pardon, avec Jean Rage. Donc, on parle toujours de lutte anti-carcérale et féminisme. On vient d'entendre donc un nouvel extrait de la discussion qui a eu lieu sur lutte anti-carcérale et féminisme dans le cadre du festival féministe EBIM, qui a eu lieu. Cette discussion a eu lieu au CCL, donc il y a 15 jours, et a été menée par Gwenola Ricordo. Et donc qui revenait sur le traitement différentiel des hommes et des femmes dans la prise en charge du pénal et du carcéral. Donc on va revenir rapidement dessus, en particulier en revenant sur le paternalisme, la prise en charge paternaliste juridique et pénale dont parle Gwenola, les conditions de peine différentes. On va revenir aussi sur le co-social, le contrôle social et la figure de la mère, qui est une figure importante.
On verra si on a le temps.
Est-ce que c'est un assez gros programme.
Mais du coup, c'est quoi finalement ce paternalisme dont elle parle ?
En gros, donc pour revenir rapidement dessus, c'est que les hommes et les femmes sont pas égaux face à la justice, au traitement de la loi et de la justice. Donc d'une manière générale, à délit égal, les femmes s'en sortent mieux que les hommes, elles sont moins durement jugées. Par contre, en matière de crimes, et particulièrement lors d'homicides, qu'ils soient volontaires ou involontaires, et d'infanticides, elles sont jugées plus durement. Et de plus, donc là je me fonde sur le livre de Gwenola Ricordo qui s'appelle « Les détenus et leurs proches ». Donc de plus, les davantage de femmes que d'hommes sont placées sur surveillance électronique, donc dans le cadre d'une peine de moins d'un an. En effet, depuis 2002, donc c'est une loi qui est passée en 2002, le juge des libertés et de la détention peut placer un prévenu sous surveillance électronique au vu de sa situation familiale. Et selon un préjugé tenace, les enfants et surtout les jeunes enfants, pardon, ayant davantage besoin de leur mère que de leur père, ça permet de justifier ce placement inégal sous surveillance électronique.
Donc en gros, ce paternalisme dont elle parle, bon, déjà paternalisme, ça fait référence à quoi exactement ? C'est une espèce de fausse bienveillance de la société, mais qui est pensée au départ par des hommes, mais de l'ensemble de la société. Hein. On peut avoir une réaction ou un comportement paternaliste en étant une femme, vis-à-vis d'une femme, mais qui réduit la femme à un peu un enfant, tu vois, en la prenant, en se disant elle est plus fragile qu'un homme, etc. Donc c'est ça un peu le paternalisme. Là, ce que tu disais, ce que disait Gwenola, c'est que il semblerait qu'il y ait un traitement plus favorable
ouais.
pour les femmes que pour les hommes, donc que le pénal criminalise moins une femme pour qu'un homme, pardon. Mais
ça dépend des peines et
ça dépend des peines, comme tu le disais. Ce que disait Gwenella et ce que tu disais, c'est que pour certaines peines, le pénal va un peu fermer les yeux. Et, mais pour d'autres, donc certains, par exemple un vol, je pense qu'un ouais. vol, ce qui, parce qu'il faut quand même dire qu'il me semble que c'est genre un tiers des personnes incarcérées, c'est pour du vol, que ouais. ce soit pour des hommes et pour des femmes. Donc c'est quand même une grosse partie. Et du coup, si une femme commet un vol et qu'elle, enfin, à répétition, hein, on vole un truc, on ne va pas en prison directement, eh ben, elle sera incarcérée moins longtemps, elle sera peut-être pas du tout incarcérée en ayant fait commis exactement les mêmes délits qu'un homme.
Après, ça dépend, je pense aussi par rapport à ça et par rapport aux peines différenciées. S'il y a eu vol à main armée, s'il y a eu des blessés, etc.
Voilà,
je pense
évidemment.
Que là, voilà, ça passe dans le crime et du coup, elles sont plus durement jugées.
Voilà. Et du coup, ce qu'on voulait dire sur ça, c'est que finalement, il y avait cette sorte de paternalisme envers les femmes qui faisait qu'elles bénéficiaient d'un espèce de traitement favorable.
Ouais.
Mais en réalité, le système pénal est complètement pervers. Cardi le dit également, Colin Cardi, dans son article. Puisqu'en fait, si la femme a un comportement qui ne correspond pas au comportement qu'on attend d'une femme, de manière générale, à ce moment-là, la peine sera beaucoup plus dure.
Ouais.
Donc, pour un infanticide, comme tu prenais l'exemple de l'infanticide, une femme qui en commet un va encourir une peine beaucoup plus dure et beaucoup plus longue qu'un homme, parce que la mère, la femme, c'est aussi la figure de la mère, alors que la figure du père est moins importante.
Ouais.
Voilà, donc c'est ça qu'on voulait dire. Du coup, on peut pas vraiment dire qu'il y a un traitement favorable ou non favorable. Il faut essayer de dépasser un peu ce paradigme-là. Dans l'article de Cardi, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant. Il y a plusieurs féministes qui ont essayé de construire de penser des hypothèses de pourquoi il y a moins de femmes en prison. La première hypothèse de cette criminalité moindre des femmes, on va dire, c'est qu'en amont, tout simplement, elles commettent moins de crimes. Et ce que disait une de ces féministes, qui s'appelle Parent, P-A-R-E-N-T, c'est que si elles commettent moins de crimes, c'est aussi parce que elles ont une éducation différente, etc. Et du coup, elles ont moins de possibilités de structurellement, donc dans la manière dont elles se comportent en tant que femmes, parce qu'à une femme on dit tu te comportes comme ça et à un homme on dit tu te comportes comme ça. Et ben dans cette espèce de panel de possibilités de ce que tu peux faire quand t'es une femme, en gros, il y a moins de possibilités de commettre des crimes. Et par exemple, d'ailleurs il y a un article qui est paru il n'y a pas très longtemps, mais je ne saurais pas vous donner la référence, où il disait justement qu'on attendait des gamins à l'école et tout qui soient plus virils, et du coup ça les poussait aussi à correspondre à cette virilité qui est aussi un peu insurrectionnelle et qui va commettre des crimes, etc. et qui se soumet pas à l'autorité.
Ouais, et puis ça revient le contrôle social, ça rejoint pardon le contrôle social. Les femmes et les filles, les jeunes filles et les femmes ensuite sont beaucoup plus contrôlées par la sphère familiale et par la sphère scolaire que les garçons. On les voit moins dans la rue, dans les études des sociologues dans les quartiers par exemple. Alors là c'est pas féministe, mais en gros on les voit moins traîner dans la rue, dans le quartier, elles sont plus souvent à l'intérieur de la maison, leurs sorties sont beaucoup plus contrôlées, etc. Et toute cette prise en charge pénale, juridique par la suite, fait suite aussi à ce contrôle social-là, familial et scolaire en particulier, et qui rejoint d'autres sphères de contrôle beaucoup plus accrues pour les femmes que pour les hommes.
Voilà, du coup, il y a cette première hypothèse qu'on peut, bon, on peut difficilement le prouver, et puis il n'y a pas assez d'études qui sont faites à ce sujet-là pour qu'on puisse le faire exactement, mais c'est une hypothèse qui paraît quand même assez plausible. La deuxième hypothèse, enfin c'est des hypothèses faites, c'est entre les deux on va dire. C'est aussi que la réaction pénale elle est moins forte pour les femmes, c'est ce qu'on disait juste avant, et du coup il y a un espèce d'effet boule de neige, parce qu'en gros, comme on dit, la prison c'est aussi l'école du crime, c'est-à-dire que des études ont été faites sur les personnes qui sont enfermées, qui en ressortent, ça a un impact sur une personne quand tu es enfermée et quand tu es au contact d'autres personnes qui ont commis des délits, etc. Et du coup, il y a un espèce d'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'un homme va être plus... Enfin, quelqu'un qui est parti en prison va plus facilement recommettre un même crime. Une femme, on l'envoie moins en prison. Du coup, il y a moins ce truc-là aussi de... Elles vont commettre... Enfin bref, c'est un espèce d'effet boule de neige. Ça, c'était pour les deux hypothèses. Voilà, on vous met une petite chanson. On reparle un peu de cette question-là. Et puis ensuite, on vous lira un extrait. À tout de suite.
À tout de suite.
La chanson, donc... Ah là là, vous oubliez chaque fois. Crystal Castle Plague. Donc c'est un titre qui est tiré de leur troisième et dernier album, qui s'appelle 3 ou The Third. Je ne sais pas comment ils le prononcent eux-mêmes. Qui est sorti en 2012. À tout de suite.
Vous êtes de retour sur Jean-Rage, avec Jean-Rage, pardon, sur RCV, j'ai du mal avec ça. On vient d'écouter Crystal Castle avec Plague, donc tiré de leur troisième album, sorti en 2012. Et on va tout de suite revenir, je vais laisser Zab revenir, sur la figure de la mère en prison qu'on a évoquée juste avant la chanson.
Voilà, alors la figure de la mère, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des figures... Donc, Gwenaëlle Ricordo parlait de déviance au début, dans le premier extrait dont on vous parlait. Déviance, c'est qu'il n'y a pas un comportement conforme soit aux attentes sociales, soit
ouais, à la norme, en fait.
Voilà, soit au niveau de la loi, tout simplement. Et du coup, on peut parler de figures de déviance, donc par exemple des figures de déviance qui sont criminalisées, là en l'occurrence, hein, bien évidemment. Chez les hommes, ça peut être le mec qui braque des banques, ça peut être le mec qui tue l'amant de sa femme, crime passionnel, ça peut être le mec qui bat sa femme aussi, ça c'est des figures de déviance typiques, on va dire. Ou fais pas, moi, le mec qui... Bon bref, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est le genre de figure de déviance. Si on doit penser à une figure de déviance typiquement féminine, en fait on pense pas à ces figures là. La grosse figure de déviance féminine, c'est celle de la mauvaise mère. Donc mauvaise mère, ça peut être la mère qui
Qui maltraite ses enfants.
Qui maltraite ses enfants, et ça peut aller jusqu'à effectivement l'infanticide. Du coup c'est une figure qui est vachement prégnante dans l'imaginaire collectif de la criminalité féminine, on va dire, alors qu'en réalité c'est des chiffres qui sont très bas, bien évidemment. Et du coup, il y a cette figure-là de la mauvaise mère qui est la figure de déviance par excellence. Il y a aussi cette même figure de déviance qui revient quand ce sont des mineurs qui sont pris en charge par le système pénal. C'est-à-dire que si un garçon ou une fille commet des délits à répétition, etc., est pris en charge par le système pénal.
Pour mineurs.
Voilà. Bon, les responsables, c'est bien évidemment les parents. Mais il y a cette figure de nouveau de la mauvaise mère, c'est à cause de la mère qui fait pas son boulot de mère, plutôt que le père, tu vois. On va beaucoup plus jeter la responsabilité sur elle que sur le père, parce que c'est à elle de s'occuper des enfants, quoi, en gros. Donc voilà, elle est un peu l'acteur social négatif, comme dit Cardi dans son article. Et ensuite, il y a une deuxième figure de la mère qui est très présente en prison. C'est celle des femmes qui sont en prison et qui ont des enfants ou qui enfantent en prison. Alors il faut savoir qu'elles ont un traitement préférentiel, bien évidemment. Elles peuvent par exemple rester dans une cellule qui est aménagée pour avec leur comment on appelle ça?
Leurs enfants?
J'ai envie de dire embryon, mais c'est absolument pas ça.
Nourrissons.
Nourrissons, voilà. Pardon. Elles peuvent rester avec leur embryon dans leur cellule. Ah bah, elles n'ont pas trop le choix. Bref. Jusqu'à 18 mois, par exemple, donc ça fait un peu plus d'un an, ça fait un an et demi. Et donc il y a des peines allégées, des allégements de peine, des peines allégées. Oh là là, n'importe quoi, comme la crème fraîche, quoi, maintenant. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, bref.
Bon, en sachant que l'aménagement des peines, voilà. A priori, il est fait pour les enfants, parce que les enfants sont libres, mais dans les faits, ce sont les femmes qui en bénéficient. Mais a priori, ils sont faits pour les enfants. Vas-y, je te laisse continuer.
Voilà, pas de souci. Du coup, en réalité, il n'y a que 42% des femmes en 2002 qui déclarent avoir un enfant en prison. Donc, c'est que la moitié au final. Mais bon, bref. Je ne sais plus pourquoi je disais ça.
Je ne peux pas t'aider.
Pardon. Eh ben, je ne sais plus. Ah oui, si, ce que je voulais dire, c'est que donc il y avait des aménagements de peine. Elles étaient, comme le disait d'ailleurs Gwenaëlle Ricordo, elles sont moins facilement mises en prison quand elles ont des enfants, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose... C'est une autre forme de paternalisme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plutôt favorable.
Mais ça, c'est quand elles n'ont pas d'enfants en prison, parce que quand elles ont des enfants en prison, en général, elles y restent. Enfin, ça dépend des peines aussi. Parfois, elles ont des remises de peine pour pouvoir sortir avec leur enfant quand il atteint 18 mois ou ce genre de choses. Mais pour les peines longues, effectivement, c'est un peu aménagé. Elles ont des... Il y a des prisons, enfin des établissements pénitentiaires qui contiennent un jardin, un parc, etc. où elles, enfin dont les enfants peuvent bénéficier et où les mères les accompagnent, etc. Des promenades plus importantes aussi, mais.
Du coup, il y a cette espèce de traitement préférentiel, mais de nouveau, il y a un double discours un peu pervers, parce que en fait, même s'il y a moins de la moitié des femmes qui déclarent avoir des enfants et encore moins de femmes qui ont des enfants en prison. Ça reste une figure qui est vachement prégnante dans l'imaginaire collectif.
Les bébés parloirs.
Voilà, et dans l'imaginaire aussi institutionnel, c'est-à-dire que dans ce que racontait Cardi, c'est que dans les rapports parlementaires, etc., qui parlent des femmes en prison, elles sont quasiment, et ça parle quasiment que des femmes qui ont des enfants. Et il y a aussi un rapport vachement traditionnaliste, patriarcal, il y a un discours paternaliste de nouveau sur comment on prend en charge ces femmes, ces pauvres femmes qui ont des enfants et blablabla. Et on attend d'elles, on leur apprend, il y a carrément des prisons où on leur apprend à être mère, etc. Mais du coup, ça réassigne les femmes à leur rôle de mère et à des rôles hyper ultra sexués, quoi.
Mais à l'intérieur de la prison, il y a aussi un double discours parce que finalement, il y a parfois où il y a des fois où elles sont marginalisées par les autres femmes qui n'ont pas d'enfants parce que justement ces mères ont un traitement différencié
et ça crée des inégalités. Ouais.
Ça crée des inégalités et ça crée parfois des c'est quoi le terme, je sais plus. Enfin bref, de la jalousie et de l'envie, etc. Et il y a aussi justement à l'intérieur même de la prison une marginalisation, une double marginalisation pour les mères infanticides, parce que comme il y a une présence d'enfants dans la prison, elles sont hyper mises à l'écart, de peur qu'on touche à leurs, enfin les mères ont peur qu'on touche à leurs enfants, etc. Et pour revenir sur le traitement égalitaire, et je te laisse terminer sur la figure de la mère ensuite, il y a aussi énormément de...
J'ai fini.
D'accord. Et il y a énormément de différences. Par exemple, donc là je me fonde sur l'article du Monde Diplomatique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui revient donc sur l'exemple de Fleury Mérogis et sur les discriminations, notamment raciales et financières, qui existent à l'intérieur même de la prison. Parce que par exemple, en 2003, donc, quand a été écrit l'article, il y avait 9 enfants présents à la nurserie de Fleury Mérogis, ce qui n'est pas énorme, mais il n'y a que 2 places en garderie, en fait. Et ces places en garderie sont réservées aux femmes françaises, donc en fait les...
Sans papier.
Les femmes, bah même les étrangères, hein, les étrangères avec papier, sont défavorisées par rapport à ça et elles ont une espèce de double peine aussi qui fait que comme il y a moins de services accessibles, etc., d'une manière générale, elles n'ont pas de place pour travailler et comme elles n'ont pas de place en garderie, de toute façon, si elles ont une place pour travailler, elles ne peuvent pas y aller parce qu'elles ont la garde de leur enfant. Et du coup, elles ne gagnent pas d'argent et en général, elles sont seules parce que leur famille est restée à l'étranger. Du coup, elles n'ont pas d'argent. Et cette espèce d'engrenage, en fait, qui fait que il y a une discrimination raciale à l'intérieur de la prison qui est très très forte, et d'une manière générale, et qui se traduit aussi par une discrimination envers les mères étrangères. Voilà.
Voilà, donc pour conclure, avant de lire l'extrait dont je vous parlais plus tôt, je voulais quand même revenir sur... Enfin, tirer une conclusion de cette émission. Finalement, ce qu'on y a dit, c'était que la prison était une institution avec une population surtout masculine, que du coup, elle n'est pas adaptée aux femmes, très souvent, que les femmes bénéficient d'un espèce de traitement préférentiel, elles sont moins envoyées en prison, leur enfermement est moindre, elles sont moins arrêtées dans la rue, etc. Et elles ont des traitements encore plus préférentiels quand elles ont des enfants. Je parle très mal aujourd'hui. Je ne sais, en plus j'ai encore une fois loupé le fil.
Elles ont des traitements préférentiels quand elles sont en prison.
Mais du coup, c'est un truc à double tranchant, on va dire, parce que en fait, elles sont prises en charge, elles ont des traitements préférentiels quand elles se comportent, quand leur comportement correspond à ce qu'on attend du rôle sexué de la femme de manière générale, et quand ça n'est pas le cas, elles sont plus fortement chargées ou criminalisées, je sais pas comment le dire. Enfin, le contraire de bénéficier que je ne trouverais pas. En gros, elles ont des peines beaucoup plus importantes et beaucoup plus dures qu'un homme, par exemple. Ouais. Donc là, c'est l'inverse. Et en fait, tout simplement, ce que je voulais dire, c'est que finalement, le système pénal, il est, la déviance, comme disait Cardi au début de son article, est pénalo-centrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les déviances sont prises en charge, surtout, donc les comportements qui ne sont pas conformes aux normes de comportement sociétal et légal, sont surtout pris en charge par le pénal. Problème, le pénal, il prend en charge surtout la déviance des hommes. Et du coup, ça invisibilise un peu le contrôle, donc ce contrôle social normatif sur les comportements, il se fait via le pénal pour les hommes, et en réalité, ça invisibilise le fait, on se dit, ah ben, il n'y a pas de contrôle, enfin, les femmes ne sont pas envoyées en prison, mais en fait, c'est parce que ce contrôle social, il s'exprime de manière différente à travers d'autres institutions qui ne sont pas des institutions qui sont d'ordre pénal ou juridique. Alors, par exemple, ça va être un contrôle social, moral, sur ce que doit faire une femme pour être une vraie femme, une mère pour être une bonne mère, etc., qui font que leurs déviances, enfin les déviances, on va dire, typiquement féminines, sont pas prises en charge tout simplement par le système pénal, mais elles sont prises en charge par d'autres institutions. Par d'autres institutions.
Et pour conclure à mon tour aussi, je voudrais juste rapidement revenir sur le coût social. On n'a pas énormément de temps, mais le coût social, alors Gwenola Ricordo en parle dans son extrait. Le coût social des femmes, alors c'est quoi le coût social? En gros, ça pourrait être défini comme ce que coûte en termes économiques, mais pas que, en termes sociaux aussi, le fait d'être une femme. Alors que ce soit à l'extérieur de la prison, comme étant proche de détenus, compagne, épouse, mère, fille, tante, sœur, le coût social des femmes à l'intérieur de la prison, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Rapidement, le coût social des femmes en prison va pas être le même, parce que par exemple, c'est ce que Gwenola Ricordo l'écrit dans son livre « Proche de détenus », les femmes sont plus solidaires que les hommes. Donc quand ce sont elles qui sont emprisonnées, elles sont souvent plus quittées par leur conjoint ou leur époux. Elles sont très peu soutenues ou moins longtemps soutenues que les hommes par leur famille. Les pères se déplacent pas, les mères se déplacent de moins en moins, les fratries se déplacent très peu aussi. Donc en fait, elles sont laissées comme ça un peu à l'abandon et à leur solitude à l'intérieur de la prison. Donc ça a un coût aussi psychologique qui est relativement important. Quand elles ont des enfants et qu'elles purgent des lourdes peines et que leur enfant à 18 mois leur est enlevé, et surtout si elles sont placées dans des établissements pénitentiaires loin de leur famille, parce que tous les établissements pénitentiaires ont pas été prévus pour accueillir la mère et leur enfant, c'est un double coup psychologique aussi, parce que d'un coup elles se retrouvent toutes seules, séparées de leur enfant et de leur famille par l'éloignement. Cette absence de lien social en prison se répercute aussi quand elles sortent de prison, parce que du coup, elles, déjà d'une manière générale dans la société, les femmes sur le marché du travail sont pas égales aux hommes, et donc quand elles sont en plus anciennes détenues et qu'elles ont perdu tout lien social avec leur famille, etc., elles ont énormément de mal à se réinsérer sur le marché du travail, déjà parce que beaucoup plus que les hommes, elles sont perçues comme des délinquantes et elles n'arrivent pas à se défaire de cette image-là. En plus, parce qu'elles n'ont pas de lieu où aller, parce qu'en général, elles retournent pas trop chez leurs parents. Si elles ont été quittées, elles n'ont plus de foyer. Donc c'est compliqué pour elles de sortir de prison, d'avoir un lieu où loger. Elles ont énormément de mal à retrouver du travail, etc. Et pour les proches de détenus, il y a aussi un coût social qui est relativement important, parce que elles, comme elles sont plus solidaires, elles continuent à aller voir leur conjoint, époux, père, frère, fils, etc. en prison, mais il y a tout un coût de déplacement, un coût de logement si on va voir quelqu'un en prison qui est loin de chez soi, un coût pour envoyer de l'argent à la personne qui est en prison, un coût de prise en charge du linge, etc. Et si elles ont un foyer, prise en charge des enfants, en plus de prise en charge financière et aide financière du détenu, enfin du conjoint détenu là en l'occurrence, en sachant aussi que parfois elles ont un travail qui est moins rémunéré que celui de leur mari, etc. Donc parfois elles cumulent des emplois, etc. Enfin bref. Donc il y a un coût social pour la femme, pour les femmes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la prison, qui est beaucoup plus important que pour les hommes.
D'où l'intérêt aussi de ces analyses féministes qui permettent de dire il faut moins enfermer les femmes.
Ouais, voilà. Et voilà.
Bon, tout de suite, sans transition, petite lecture donc d'un extrait de « Suis-je encore vivante ?» de Griselidis Réal. Alors Griselidis Réal, je vous disais, c'était une prostituée, une peintre et une écrivaine genevoise, ou je ne sais pas comment ça se prononce.
Comme ça.
Qui a été incarcérée en Allemagne en 1963, pendant 7 mois, pour avoir vendu de la drogue à des soldats américains, en gros. Et pendant cette période, elle a tenu un journal de prison qui a été publié post-mortem en 2008. Et même s'il a été publié tard, du coup, il constitue finalement son premier ouvrage. C'est en prison qu'elle a commencé à écrire. Et voilà, donc je vous lis ça tout de suite. Munich, Allemagne, 2 avril 1963. Ces lignes seront-elles lues un jour? Je ne sais pas. Je suis en prison, déjà 6 semaines. Le plus atroce fut le premier jour et la première nuit. Là, j'ai atteint le point culminant du désespoir le plus aigu. Puis ce fut plus facile. Nous étions 3. Le temps flottait, entrecoupé de jeux, de rires, d'anecdotes. Maintenant, je suis seule de nouveau. Le désespoir s'est redurci. Il forme bloc avec la cellule. J'étouffe à l'intérieur comme un poisson pris dans la glace. La cellule n'est pas grande, mais elle est très haute. Elle est pourvue d'un affreux éclairage au néon, trop pâle. On l'allume tôt dans la soirée par un commutateur placé dans le corridor. Le corridor, jalonné de cellules, est immense. À tout moment retentissent des pas et des bruits de clés. On contrôle les fermetures, mais nous, les prisonnières, nous ne voyons presque personne. On nous épie souvent par un trou minuscule placé dans un carré de fer qu'on peut soulever sans bruit de l'extérieur. Ainsi ne se sent-on jamais tranquille, mais à la merci d'une observation continuelle. Dans la cellule à 3, nous étions trop serrés. Parfois l'atmosphère était chargée d'électricité. Un mot, un geste de trop aurait déclenché un drame, une bataille de fauves. J'ai voulu être seule. J'ai espéré longtemps, attendu, et le moment venu, j'ai cru ressentir de la joie. J'ai cru éprouver un grand soulagement à retrouver le calme et la solitude où l'on s'épanouit mieux. Soulagement bien factice et de courte durée. C'est vrai que je peux être moi-même, à mon aise, rêver, chanter et siffler du bac, dessiner des choses étranges, écrire sans que des yeux observateurs ne me paralysent. Je n'ai plus à supporter le bruit et l'humeur de 2 autres femmes qui diffèrent totalement de moi par le caractère, la culture et la pensée. Rares sont les êtres qui pensent au-delà d'une certaine limite, tout extérieure. Mais j'ai à me supporter entièrement moi-même. Et c'est un poids combien plus lourd. Et combien inexorable est l'angoisse de ne pouvoir se refléter dans rien, ni se comparer à personne. On est livré aux influences abstraites, elles gagnent en puissance insidieusement et sapent les bases de l'être. Qui suis-je? Par rapport à qui? Et à quoi? Où sont mes limites, mon noyau? Questions auxquelles je m'efforce de répondre, qui me rongent et m'affaiblissent. La plus grande épreuve que l'on puisse traverser, c'est la solitude. Et la solitude la plus vraie, la plus impitoyable, c'est celle que j'ai rencontrée en prison. Mais je ne veux pas désespérer. Je lutte encore de toutes mes forces. J'espère, je crois en la vie, je crois en l'amour, je crois en la bonté humaine. Il faut que cette épreuve soit positive, qu'elle m'amène à la paix, à une compréhension plus profonde de l'humain, de moi-même, de la valeur de l'être. Que rien ne soit détruit, que tout au contraire soit reconstruit. Et si parfois je succombe à l'horreur d'être enfermé ici, loin de mes enfants, de mon ami, de tout ce que j'aime, loin du mouvement de la vie, je refuse d'accepter la lâcheté, je refuse le renoncement à la lutte. Tant pis si je pleure, parfois longtemps, car de la haute fenêtre fermée par 6 barreaux où ne paraît qu'un carré de ciel, tantôt gris, tantôt bleu, tantôt noir, me parviennent, déchirant, tous les bruits vivants du dehors. En ce moment, la symphonie du dehors est très belle. Il vient de sonner 7 heures, le bleu du soir se noircit, les oiseaux se répondent en longues roulades musicales, entrecoupées de cris clairs. Les voitures roulent comme des vagues de la mer. Un tramway fend l'air de son sifflement. Tout à l'heure, un avion, puissante traînée de joie, a traversé le ciel. De tous côtés résonnent des coups sourds frappés contre les murs. Ce sont les prisonnières qui s'ennuient. Une pleure longuement de l'autre côté du couloir. On dirait la plainte d'un loup. C'est une grande fille jeune, aux cheveux blonds, lumineux, aux yeux très bleus comme la mer. Quel malheureux hasard, quel destin brutal l'a amenée ici, en pleine jungle, parmi les animaux méchants. Elle se révolte. Elle ne sait pas encore qu'il faut jouer la comédie, se taire, se murer derrière un masque. Elle joue franc jeu, et sa grande crise de rage de l'autre jour, ses roulades nerveuses, faisaient tout à la fois du bien et du mal à entendre. Ici, l'innocence ne paie pas. La soirée est déjà bien avancée. L'extinction des néons est à 9 heures. La nuit dernière, j'ai rêvé que je m'étais évadé, que je prenais l'avion pour le Brésil avec un faux passeport. Ô puissance salvatrice du rêve, mais l'horrible réveil, sur un lit dur, seul, dans une cellule enfermée. Pendant quelques minutes, j'ai maudit d'être en vie. Irais-je encore au cinéma? Ou ferais-je à l'aide de quelques restes, toujours prudemment mis de côté au long du jour, une reddition de souper. Le cinéma, afin que nul ne s'étonne, est un plaisir dangereux et qui n'est pas à la portée de toutes. Il s'agit en effet de décrocher l'étagère très lourde qui est contre le mur, de la porter sous la fenêtre, de la dresser de toute sa longueur pour ensuite grimper au risque de tomber et d'être aperçu en s'agrippant d'une main à la barre de fer qui manœuvre la partie supérieure, la seule amovible, de la fenêtre. Une fois juché sur cet édifice étroit et branlant, on jouit d'un spectacle vraiment unique, qui procure une nostalgie et une douceur inoubliables. On voit, dans une cour transformée en chantier, un vrai arbre, puis un autre, puis une petite guérite où se tient le gardien de nuit parfois en compagnie d'un énorme chien-loup, puis l'immense mur nu qui entoure la prison, et au-delà du mur, ô merveille, ô miracle, d'autres maisons, véritables, vivantes, habitées par des êtres qui sont libres, qui vivent par couple ou en famille, qui mangent normalement, qui s'aiment, qui écoutent de la musique, le soir, à la lumière de fastueuses lampes à abat-jour. Le tout trop lointain cependant, pour que l'on puisse en distinguer les détails. Et à droite, ô splendeur, une rue bordée de maisons, de jardins, avec même un bistrot, et sillonnée jour et nuit de voitures, avec de vrais piétons. Je ne peux les reconnaître, mais je vois que si ce sont des hommes, des femmes ou des enfants. C'est dit, je vais m'octroyer un petit moment de cinéma, quelques actualités, avant de me coucher. Et voilà.
Il n'y a pas de mots.
Nous terminons cette émission, cette 34e émission. On se voit dans 2 semaines pour toujours parler de lutte anticarcérale et féminisme. Dans la prochaine émission, on parlera un peu plus de lutte anticarcérale. Ce dont on n'a pas fait aujourd'hui. Voilà.
Ciao.
À bientôt.
Protect our shield from the
protect her, and she